Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer s'il le faut sur les sujets de santé qui vous préoccupent, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui notre grand dossier du jour sera consacré au sucre, une émission en partenariat avec le Figaro Santé. Nous allons tout reprendre. D'abord, savez-vous vraiment ce qu'est le sucre? Quelle est sa ou ses fonctions sur notre organisme? On va vous apprendre aussi à le débusquer dans des aliments auxquels vous ne pensez même pas, car oui, il se cache partout et en excès, malheureusement. Il nous fait grossir, là je ne vous apprends rien, mais surtout, il peut abîmer nos organes comme le cerveau ou même le foie. Alors ne vous inquiétez pas, dans cette émission, on va vous donner des conseils, des astuces simples pour ne pas en arriver là. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque nous rejoindra en studio pour sa chronique beauté avec une tasse de café à la main. Et oui, vous ne le savez peut-être pas non plus, mais votre expresso a des vertus pour votre peau. Il va nous expliquer tout ça. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses habitudes, ses préférences sexuelles qui peuvent parfois évoluer quand on vieillit, quand on mûrit.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Mathias, 34 ans. Écoutons-la.
Bonjour tous les deux. Bon, je m'interroge un peu en ce moment et je me demande en fait ce que c'est la crise de la quarantaine. Ça existe vraiment? Ça concerne plutôt les hommes ou les femmes? Ouais, puis je m'interroge aussi pour savoir si tout le monde passe par là. Hein. Voilà, je vous remercie pour votre réponse et puis je vous souhaite une bonne émission.
Jimmy, vous voulez répondre, vous qui approchez bientôt du cap?
Non, non, vous êtes plus proche du cap que moi, donc attention, ne faites pas
c'était
la manie.
C'était une petite blague pour démarrer. Allez, pour vous répondre, Mathias, nous avons fait appel à Yvonne Poncet-Bonisol, elle est psychologue et spécialiste des relations familiales, on l'écoute.
La crise de la quarantaine, ou encore appelée crise de milieu de vie, existe bien souvent, mais n'est pas un passage obligé. En revanche, la crise de la quarantaine, c'est une phase qu'on appelle une phase d'individuation. C'est le moment où on n'a plus envie de s'adapter à ce que les autres vous demandent d'être. On a envie d'être soi-même. Il existe au féminin comme au masculin. Mais au niveau de la crise d'individuation masculine, c'est plus cette crise de milieu de vie, envie peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi? C'est la peur du vieillissement, la peur de ne plus séduire. Donc, ils sont plus dans cette démarche. Donc, envie, effectivement, de voir si encore son pouvoir de séduction est opérationnel. Pour les femmes, c'est plus intériorisé, c'est une démarche individuelle. Où là aussi, parfois, elles ont envie d'avoir une autre vie, tout en voulant garder celle qu'elles ont, parce qu'elles sont plus conservatrices au niveau de la cellule familiale. Néanmoins, si c'est un passage qui est fréquent, ce n'est pas un passage obligé.
Eh bien voilà, c'était très clair. C'était l'éclairage d'Yvonne Poncet-Bonisol au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur qui nous a été envoyée par Margot, qui nous a écrit du Var. Elle nous a écrit, Jimmy, pour nous demander la chose suivante. Est-ce que c'est grave d'avoir une écharde dans le doigt? Cela m'arrive souvent quand je travaille dans mon jardin et mon mari s'obstine à vouloir me les retirer à chaque fois. Il me triture le doigt, dit-elle. Moi, je me dis qu'elle finira bien par sortir toute seule. En tout cas, quelle est la bonne méthode, s'il vous plaît, pour l'enlever sans se faire trop mal? Bon, une question bien pratique, pourquoi pas. Jimmy, ça peut arriver d'avoir une écharde. Est-ce qu'il faut vraiment toujours chercher à la retirer d'ailleurs?
Alors il y a deux écoles, ça va dépendre de plein de paramètres, mais globalement, une écharde, lorsqu'elle est présente et qu'elle est douloureuse, il faut l'enlever. Il faut l'enlever rapidement, car à mesure que vous attendez, elle va être absorbée par la peau. Et là, deux choses vont se produire. Soit elle va être en quelque sorte digérée et plus jamais elle ne vous fera mal. Soit au contraire, elle va évoluer vers de l'inflammation, c'est un corps étranger. Et ça va évoluer vers un petit abcès qu'il va falloir inciser. Donc ça dépend de plein de paramètres. Mais si elle est douloureuse, eh bien, faut plutôt la retirer.
Alors justement, docteur Jimmy Mohamed, le bricolo, comment on fait ça? Parce que bon, moi, j'ai connu la pince à épiler, là,
oui,
mais
exactement.
Ça fait hyper mal.
La pince à épiler pour enlever la moustache, là, qui est un peu disgracieuse par moment en vacances. Alors souvent, ça arrive pendant les vacances. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à l'emporter avec soi comme un kit de survie. On prend du paracétamol et une pince à épiler. L'idéal, c'est de faire ça après le bain. Ça va ramollir un peu
voilà
les tissus subcutanés.
Voilà la petite astuce du docteur, c'est ça.
Ne pas oublier qu'il faut désinfecter, car s'il y a une épine, c'est qu'il y a une plaie. Et à ce moment-là, on essaie de le retirer. Mais attention, si elle est très enfouie et que vous n'y arrivez pas, eh bien lâchez l'affaire. Ce n'est pas la peine d'essayer d'ouvrir, de l'enlever, parce qu'à ce moment-là, vous risquez soit de vous blesser, soit de créer une infection, ou au contraire, d'abîmer les tissus autour. Et nous, médecins, on ne pourra jamais l'enlever.
Alors justement, on lâche l'affaire, ok, mais on ne va pas rester avec une écharde, un bout de verre, enfin je ne sais quoi, le doigt. On fait quoi? On va aux urgences?
Alors imaginez, par exemple, que vous tombez dans les ronces et que vous aviez... je sais pas, une cinquantaine ou une centaine d'épines,
pas,
ça arrive, c'est déjà arrivé, mais dans un cactus en vacances, eh bien on ne vous retire pas toutes les épines, elles vont être en quelque sorte absorbées digérées, et puis elles vont se détruire en quelque sorte, elles ne feront plus jamais parler d'elles. En attendant, ce que vous devez faire, c'est de désinfecter matin et soir, et si la douleur est trop importante, eh bien on va voir le médecin. Mais encore une fois, le médecin, lui, il ne va pas forcément la retirer. Dans un premier temps, il va voir si on peut essayer de la dégager, mais si c'est trop profond, eh bien vous laissez telle qu'elle. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un monsieur comme ça, qui s'est pris une écharde dans le talon, ça lui a fait mal. Il l'a traité par le mépris, sauf qu'au bout de 48 heures, bah, il a dit bah, « il va falloir que je l'enlève ». Il a fallu inciser un peu plus, découper autour de la peau pour réussir à l'enlever. Si jamais on n'y arrive pas, eh bien on attend que ça passe. Et malheureusement, ça peut évoluer vers un abcès. Et à ce moment-là, on vide l'abcès et on s'en débarrasse. Mais on finit au bloc opératoire.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le Figaro Santé. On va commencer par vous, Aline Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé. Vous avez donc coordonné le tout dernier numéro du magazine Santé du Figaro qui vient de paraître et qui comprend donc un dossier extrêmement complet de 60 pages consacrées au sucre, notre sujet du jour justement. Notre deuxième invité en plateau avec nous, c'est vous, docteur Mathilde Touvier. Bonjour. Vous dirigez l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et à l'Université Sorbonne Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Aline, je reviens vers vous pour démarrer ce dossier sur le sucre. D'abord, on va peut-être préciser de quoi on parle, parce que dans la tête des gens, bon, on dit sucre, hein, on peut penser éventuellement aux bonbons, aux gâteaux, mais c'est quoi le sucre, la définition du sucre ?
Alors, effectivement, vous l'avez dit, le sucre, c'est ce que je mets dans mon café le matin ou le gâteau que je prépare pour ma très nombreuse famille. C'est ça, le sucre, mais c'est aussi ce qu'on appelle, en termes scientifiques, un glucide. Donc, c'est des glucides, d'ailleurs, parce qu'il y a toute une famille de sucres. Alors, le sucre du café, on sait que ça s'appelle saccharose. Vous avez aussi du glucose, du fructose, de l'amidon. Pour parler plus clairement, vous avez le fructose des fruits, de l'amidon des pommes de terre. Vous voyez, ensemble de molécules qu'ils sont appelés les sucres.
Alors, docteur Touvier, il faut dire que le sucre, on le diabolise, peut-être à juste raison, on en parlera après, mais il faut rappeler que le sucre, on en a besoin. À quoi ça sert? Et qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on en absorbe?
Alors, on a vraiment besoin des glucides, hein, de manière générale. Donc, c'est ce que disait Aline. Il y a les sucres simples, le fructose, glucose, saccharose, etc. Et les sucres complexes, les glucides complexes. On a besoin de glucides pour apporter de l'énergie à notre organisme. Hein, il est digéré, absorbé, transformé en glucose et après absorbé dans notre organisme. En revanche, attention, c'est mieux les glucides complexes. Si on consomme trop de sucre simple, là, les excès peuvent poser des problèmes de santé.
Mathilde de Touvier, un peu comme le sel à l'époque. Hein, est-ce que c'est vrai qu'on a beaucoup diabolisé le sel aussi? On en consommait trop. Il fallait arrêter un peu le sel. Là, maintenant, on nous dit qu'il faut arrêter le sucre. Est-ce que c'est vrai qu'on en consomme vraiment trop aujourd'hui de sucre?
Oui, on en consomme trop. D'après l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, il faudrait consommer pas plus de 100 grammes de sucre simple par jour. Or, il y a 20 à 30% des Français qui en consomment plus. Pareil, il ne faut pas plus d'une boisson sucrée, normalement, par jour. Et il y a 28% des adultes qui en consomment plus. Donc, on est en excès, clairement.
Et justement, Aline, est-ce qu'on peut parler dans notre société d'une addiction au sucre ou c'est peut-être un mot un peu trop fort?
Alors, c'est vraiment un débat. C'est un débat entre scientifiques, entre nutritionnistes. Et puis, chacun d'entre nous peut avoir aussi son opinion par rapport à ça. Il y a des gens qui ont des envies de sucre. Hein, on en parlera tout à l'heure. On a fait un reportage là-dessus. Des gens ont des envies de sucre. Pour autant, est-ce que c'est une drogue? Alors, il y a des études, ça remonte maintenant à quelques années, qui avaient été faites sur des souris, hein, des petits rongeurs, à qui on avait fait choisir entre le sucre et la cocaïne. Et que voulez-vous qu'il arriva? Ils ont choisi le sucre. Alors, bon, ça a été beaucoup critiqué, hein, la méthodologie de l'étude.
Qu'est-ce qu'on est des souris, quoi?
Exactement, qu'est-ce qu'on est des souris? Alors, on a recommencé le même genre d'expérimentation, toujours sur des rongeurs, avec des croquettes en chocolat. Et alors, ces pauvres bêtes, on leur mettait une petite décharge électrique quand elle voulait manger du chocolat, mais n'empêche qu'elle voulait quand même en manger. Bon, c'est, comme le dit Mélanie, c'est des souris, c'est pas des humains. Je crois que le débat reste ouvert. C'est très complexe ce qui peut se passer dans notre cerveau. Vous savez, on a le circuit de la récompense, on a nos émotions, on a des processus chimiques, biologiques. Et tout ça est complexe. Mmh.
Petit détour historique, je vais revenir avec vous tout de suite, docteur Touvier, mais petit détour historique à Aline. Est-ce que c'est vrai que le sucre, je crois que vous en parlez dans le Figaro Santé justement, à une époque c'était même un médicament?
C'était tout à fait un médicament. D'ailleurs, on peut le comprendre. Vous savez que le sucre a une vertu, c'est que en fait, c'est un conservateur. Hein. C'est exactement comme le sel. Vous pouvez conserver des aliments dans le sucre. Et à l'époque, que ce soit d'ailleurs dans la Haute Antiquité ou même au Moyen-Âge, on conservait les plantes médicinales dans du sucre. Vous avez entendu parler de cette plante qui s'appelle l'angélique sucrée, on en trouve d'ailleurs encore. Et donc, c'était une façon de préparer des médicaments.
Docteur Touvier, vous vouliez compléter tout à l'heure sur le sucre.
Oui, simplement, non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a vraiment un débat sur est-ce que c'est une addiction au sens clinique. Alors, on ne sait pas vraiment encore. Par contre, il y a quand même une histoire d'habitude. C'est-à-dire que si on habitue les enfants à avoir une bouteille de soda à table au lieu d'avoir de l'eau, etc., je ne sais pas si c'est une addiction, mais enfin, en tout cas, ces habitudes-là risquent de perdurer et d'être de très mauvaises habitudes et de déclencher les maladies à l'âge adulte.
Et est-ce qu'on renforce le comportement des enfants quand on leur dit si tu es sage, tu auras un bonbon, et à l'inverse, si tu es méchant, je te prive de dessert? Est-ce qu'on est conditionné dans l'enfance à associer
le sucre
au plaisir?
Vous faites ça avec vos enfants, Jimmy?
Non, mais bon.
Ils n'ont pas le droit à la télé, ils n'ont pas le droit aux bonbons, sûrement chez vous.
Parfois, il y a la récompense du petit morceau de chocolat, si tu as été sage. On l'a tous connu, malheureusement. Est-ce que ça peut participer à, pas l'addiction, mais au goût sucré qu'on aime bien?
Ouais. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je pense que ça a une sorte de conditionnement, comme on ferait avec les animaux, qui n'est peut-être pas génial. Il vaut mieux trouver d'autres récompenses.
Et le problème, c'est que ce sucre, il est présent partout. Les industriels en profitent beaucoup. Et le vrai souci, on parle du sucre, mais c'est le sucre caché. Et celui-là, parfois, on a du mal à le débusquer.
Oui, il y a même du sucre. Alors évidemment, dans les biscuits, les bonbons, etc., on s'y attend. Mais il y en a aussi, par exemple, dans certains biscuits apéritifs. Il y en a aussi dans des conserves de maïs. C'est très souvent qu'il y a du sucre ajouté. Donc, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, c'est du sucre caché. Puis aussi, sur les étiquettes, ce n'est pas forcément marqué sucre. Le sirop de glucose, fructose, dextrose, etc., tout ça, c'est des sucres cachés, finalement, pour le grand public. Donc, se méfier.
Pourquoi les industriels, on dit les industriels en profitent? Pourquoi on met du sucre dans une pizza, par exemple? Je ne comprends pas, en fait.
C'est sûr que c'est
ça sert à quoi,
ça relève le goût,
nutritionnellement,
en fait,
hein. Non, c'est juste pour nous, pour tricher, pour entretenir cette appétence qu'on a, nous,
le public. Comme le sel, c'est bon au goût, en fait, c'est surtout.
Aline,
je crois qu'il y a un exemple qui est assez célèbre, qui est celui du McDonald's. Je ne sais pas s'il ne faut pas citer ça à l'antenne, mais enfin bon, de tous ces hamburgers de l'industrie agroalimentaire. En fait, pour que ça nous plaise en tant qu'humains, nos petites papilles, il faut qu'il y ait du sucre, du sel, du gras. Et vous avez le cocktail, c'est infernal. C'est-à-dire que vous êtes attiré par ce mélange. Et donc le sucre dans la pizza, ça a exactement...
Ça n'a aucun intérêt nutritionnel, mais c'est pour qu'on aime ça, quoi.
Alors en plus, je dirais que ça n'a effectivement très peu d'intérêt nutritionnel. Ça permet de gagner de l'argent.
Ouais.
Parce que je reprends ma pizza, si vous avez des tomates de basse qualité qui n'ont pas tellement de goût, il faut un exhausteur de goût, donc il faut du sucre et du sel et du gras.
Hein.
Et donc ça a beaucoup d'intérêt pour l'industrie.
Et du coup, on s'est aussi adapté, on a banni le sucre, on les a remplacés notamment par des édulcorants, l'aspartame, la stevia. Et quelle est votre position, docteur, là-dessus? Puisque, est-ce qu'on peut y aller sans modération, vu qu'il n'y a pas de sucre?
Non, là, les effets sont vraiment très controversés. On ne sait pas encore bien l'impact à long terme sur la santé humaine. Il y a des études qui ont montré potentiellement des risques cardio-métaboliques, donc sur prise de poids, sur des dérèglements du métabolisme.
Avec de l'aspartame, encore une fois, vers des choses qui ne sont pas du sucre. Hein,
exactement,
c'est ça, ouais.
Voilà, avec des édulcorants. Nous, dans l'étude NutriNet Santé, donc sur plus de 100 000 personnes adultes, on a montré finalement un lien entre boissons sucrées et augmentation de risque de maladie cardiovasculaire, mais il y avait le même lien entre boissons édulcorées et augmentation de risque de maladie cardiovasculaire. Donc ça fait vraiment partie des débats scientifiques. Mmh. Il y a des études chez l'animal qui montrent une perturbation du microbiote intestinal avec certains édulcorants, donc prudence.
D'accord, très bien, mais au moins c'est clair. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. En studio pour cette émission, en partenariat avec le Figaro Santé, vous d'abord, Aline Richard, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé qui comprend un dossier très complet sur le sucre. Et puis, en plateau avec nous également, docteur Mathilde Touvier, vous dirigez l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et à l'université Paris-Nord, Sorbonne-Paris-Nord. On parle du sucre cet après-midi, évidemment. Un message important, c'est attention au sucre caché. Docteur Touvier, vous allez nous aider peut-être à les débusquer justement en pratique, comme on fait nous dans notre petit quotidien au supermarché et tout ça. D'abord, quelles sont les recommandations justement? Vous disiez tout à l'heure 100 grammes maximum par jour, on dépasse largement, c'est ça, vraiment on explose le compteur, hein.
En tout cas, oui, voilà, 20 à 30% des adultes sont au-delà. Et c'est vrai que ça va assez vite. Alors, il faut consommer, par exemple, des fruits. Ça, c'est au moins 5 portions de fruits et légumes par jour.
Ça fait combien de sucre, déjà, si je mange 5 fruits?
Alors, en général, ce n'est pas 5 fruits. Il ne faut pas panacher fruits et légumes. Mais si déjà, on mange, par exemple, une pomme, une banane, à peu près 50 grammes de céréales petit déjeuner, qui en général sont très sucrées, et mettons un soda, là, on est déjà aux 100 grammes.
On est déjà aux 100 grammes qu'avec ça.
Voilà, ah, oui. Dans la journée, ça va assez vite. Donc, attention.
Jimmy, votre bol de miel Pops,
ça avait déjà metté le compteur.
Et justement, vous parlez du soda, mais c'est sucré. On le sait, à quel point il y a du sucre dans un soda, puisque parfois on se dit bon, allez, ça passe bien parce que c'est sucré. Mmh,
c'est bien
bon
de rappeler. Ouais.
Mais est-ce que c'est si bourré de sucre que ça?
Oui, c'est beaucoup de sucre. Donc c'est 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc pour une canette de 33 centilitres, on est à peu près à 35 grammes, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait 6 morceaux de sucre.
Allez, Richard.
Et c'est non seulement extrêmement sucré, mais en plus, ce n'est pas n'importe quel sucre. C'est-à-dire que très souvent, dans le process industriel, on utilise ce qu'on appelle le sirop de maïs, qui est un sirop au pouvoir sucrant incroyable, qui est un mélange en fait de glucose et de fructose. Or, on sait que le fructose, traité chimiquement de cette manière-là, c'est-à-dire pas celui des fruits naturels, mais celui qui est processé par l'industrie, est extrêmement mauvais.
Et c'est mauvais justement à quel point? Parce que les adolescents, bon, on sait, ils en boivent beaucoup des sodas, mais je crois que vous avez même montré des liens entre... Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre consommation de soda et obésité, par exemple?
Oui. Alors, boisson sucrée, on sait maintenant avec un niveau de preuve fort que c'est associé, alors évidemment, aux caries, prise de poids, obésité,
ouais,
tout ce qui est diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, même mortalité, ça a été établi, et puis maladie du foie gras, la NASH, je crois qu'on en reparlera. Et puis, nous, on a même aussi montré des liens dans la cohorte Nutrinet Santé avec une augmentation du risque de cancer. Donc ça, c'est encore au stade de recherche, pardon. Mais il y a quand même beaucoup de maladies qui sont maintenant associées à boissons sucrées.
Alors, vous parlez justement du cancer, ça veut dire quoi? Que les tumeurs vont se nourrir du sucre qu'on va leur donner, et ça veut dire qu'on pourrait provoquer en quelque sorte certaines maladies ou les aggraver?
Alors, quand on parle de sucre et cancer, il faut distinguer deux choses. Il y a la prévention primaire, donc est-ce que manger du sucre augmente le risque de cancer? Donc ça, c'est au stade de recherche, mais il y a des études qui le suggèrent. Et après, il y a chez les patients. Quand on a un cancer, pendant les traitements, est-ce que le sucre va nourrir la tumeur? Alors ça vient d'une idée qui est que les cellules tumorales consomment beaucoup de sucre, effectivement, jusqu'à 10 fois plus que les cellules normales. Donc on s'est dit, si on les prive de leur carburant, est-ce que finalement on arrive à réduire la tumeur? Alors ça, chez l'animal, il y a des études très encourageantes, allant même jusqu'au jeûne, pas seulement supprimer le sucre, mais le jeûner carrément. Chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'a pas été établi, voire même le risque chez un patient qui se priverait de sucre et qui essaierait de même faire du jeûne, c'est la dénutrition, voire même la fonte musculaire, la sarcopénie. Donc ça, c'est des choses qui, pour le coup, sont très dangereuses pour son pronostic. Donc prudence, on n'en est pas du tout à recommander de supprimer le sucre ou de jeûner chez les patients.
Aline, dans ce dossier très complet du Figaro Santé, il y a vraiment des tas d'informations sur le sucre et on apprend beaucoup de choses, notamment qu'il y aurait même un lien entre consommation excessive de sucre et maladie d'Alzheimer. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est exactement ce que dit le docteur Touvier par rapport au cancer. Il faut faire extrêmement attention. Il y a, concernant un lien supposé entre la surconsommation de sucre et Alzheimer, il y a des indices, il y a une piste qu'on peut et que les scientifiques vont poursuivre, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a aucun lien de causalité. Il y a juste des corrélations qui ont été faites, notamment par une étude de l'INSERM sur, effectivement, alors, il y a plusieurs indices, si vous voulez. La principale, c'est en épidémiologie, on a comparé sur une cohorte, je crois, de 2800 personnes. On a regardé les habitudes alimentaires et les habitudes sucrées et la survenue de la pathologie Alzheimer. Et on s'est aperçu qu'il y avait des indices en ce sens, mais attention, uniquement chez les gens avec un profil génétique à risque, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a un gène qui s'appelle AOP, je prononce mal, excusez-moi, il y a ce gène-là dont un variant est associé à un plus grand risque de survenue de Alzheimer. Donc bon, voilà, ça c'est une chose. Il y a une autre chose importante, c'est qu'on s'aperçoit que la surconsommation de sucre, vous savez que quand vous mangez du sucre, votre taux de glucose dans le sang augmente, donc votre glycémie augmente, que ce n'est pas très bon pour un certain nombre de cellules, les cellules cardiaques, etc., etc. et aussi les cellules nerveuses. Hein. Et par exemple, les gens qui ont du diabète, il y a une association qui est faite avec des troubles cognitifs et du diabète. Et on se demande si ce rôle de la glycémie n'est pas important.
Et justement, docteur Touvier, on parle du cerveau avec la maladie d'Alzheimer, mais on le sait, le cerveau a besoin de sucre. Et à l'inverse, l'excès de sucre serait nocif peut-être pour nos cerveaux et nos artères.
Oui, alors ça fait partie justement des pistes de mécanismes. En tout cas, ça a été montré avec le sucre sous forme liquide, boisson sucrée, et on le pense aussi avec le sucre solide. En tout cas, c'est ce que les recherches tendraient à montrer. Oui.
Aline Richard, l'excès de sucre, c'est étonnant. On le lit aussi dans le Figaro Santé. Pour le coup, on connaissait les effets du sel sur l'hypertension artérielle, mais le sucre aussi aurait peut-être une action.
Alors, ça a une action, hein, ça a été montré, mais attention, encore une fois, hein, on est dans la nuance. Hein, on est vraiment dans la nuance. Il ne s'agit pas de vous diaboliser un nutriments. On l'a montré, ce lien direct hein, entre consommation de sucre et hypertension artérielle aux États-Unis sur des adolescents qui se boivent une dizaine de canettes de soda par
quand
jour.
Même, ouais.
Heureusement, en France, on n'en est pas encore là, ou alors il y a assez peu de monde. Mais là, effectivement, l'étude est assez claire. Elle montre une élévation qui est pas
des
énorme,
chiffres de pression artérielle,
mais qui est sensible.
Et il y a un autre organe auquel on ne pense pas, mais qui n'aime pas beaucoup le sucre, en tout cas lorsqu'il est apporté en excès, c'est le foie. On le sait, alcool et foie, c'est pas terrible, mais sucre et foie, ça fait pas bon ménage.
Oui, il y a donc des pathologies qui s'appellent les maladies du foie gras non alcoolique. Bon, on sait que l'alcool n'est pas bon pour le foie,
mais finalement,
la NASH en fait partie. Et donc, ces maladies-là représenteraient à peu près entre 20 et 25% en Europe hein, de prévalence. Donc, c'est des choses qui sont importantes et qui se développent avec notamment les boissons sucrées.
Mmh. Mesdames, on va faire une courte pause. Bien sûr, cet entretien, on le poursuit dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi toutes les deux pour cette émission spéciale sucre en partenariat avec le Figaro Santé dont vous êtes rédactrice en chef, Aline Richard. Avec nous aussi sur ce plateau, le docteur Mathilde Touvier. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche INSERM, également investigatrice principale de la cohorte Nutrinet dont vous avez déjà un petit peu parlé. Alors justement, pour ceux qui ne le sauraient pas, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette cohorte Nutrinet?
Alors Nutrinet Santé, c'est une étude qui a démarré en 2009, hein, qui se poursuit depuis. On a plus de 170 000 adultes qui remplissent régulièrement.
J'en fais partie.
Ah, super.
Vous ne saviez pas, hein, je vous ai fait une petite
moi
surprise.
Moi aussi.
Oh, merci pour la recherche publique. Super. D'ailleurs, on manque d'hommes.
On peut s'inscrire quand on veut encore. Hein,
absolument. Ouais. Donc, on cherche des nouveaux volontaires. Hein, donc, si vous avez au moins, même à partir de 15 ans, un accès à Internet, on remplit des questionnaires sur Internet. C'est simple, c'est didactique. Et puis, on suit évidemment l'état de santé.
Et on a appris déjà plein de choses grâce à Nutrinet, notamment des données sur le sucre, justement.
Exactement. On a notamment donc montré des liens entre une plus forte consommation de boissons sucrées et une augmentation de risque de cancer, notamment cancer du sein, de sucre ajouté aussi, et notamment le sucre de table, hein, le saccharose, en lien aussi avec augmentation de risque de cancer, de maladies cardiovasculaires. Là, on est en train d'étudier tout ce qui est édulcorant pour avoir vraiment des preuves scientifiques sur ce domaine-là. On a montré aussi des liens sur la plus grosse charge glycémique de l'alimentation et augmentation de risque.
Donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur Nutrinet. Non seulement vous remplissez de questionnaires, honnêtement, c'est ludique, c'est facile, ça va vite. Et en plus, on aide la recherche. Jimmy.
Aline Richard, on va passer à un côté un peu plus pratique. Alors, vous avez assisté notamment à une séance d'hypnose pour justement lutter contre les pulsions sucrées qu'on peut avoir, c'est vrai, de temps en temps. Alors, comment ça marche?
Est-ce qu'il veut y aller, Jimmy? Je crois qu'il a un souci avec les pains au chocolat.
Est-ce que ça marche?
Alors, vous allez tout savoir. Alors, d'abord, je précise que ça n'est pas moi qui suis allée. Je trouve que
vous avez coordonné le magazine, c'est un des journalistes.
Et puis, j'aime pas trop le sucre, à vrai dire. Mais mon reporter aime beaucoup ça. Il aime les gâteaux et
il est allé voir
le docteur Benahem.
Benahem qu'on a reçu sur ce plateau, qui est excellent.
Absolument, ouais. donc qui est spécialiste de l'hypnose médicale. Et il s'est soumis à une séance d'hypnose. Alors, ça se passe de façon très
est-ce que ça a marché?
Tranquille.
Est-ce que du coup, il a réduit
Alors,
ses
oui,
pulsions
ça a marché, ça a marché. Alors, ce qu'il raconte dans son article, qu'on peut lire dans le Figaro, c'est intéressant parce que finalement, ça permet d'évoluer, mais d'évoluer soi-même, quoi. Pas,
au lieu de manger trois pains au chocolat,
il en mange
plus qu'un maintenant.
Voilà. Pas d'être dans l'injonction. Simplement de se dire, mais finalement, ce pain au chocolat, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça pour moi?
Mais oui, il est bon.
Mais non.
Vous êtes en manque, Mélanie, de sucre.
J'ai pas fait la séance.
Voilà. Et en fait, on l'abandonne par la pensée.
Vous allez abandonner vos pommes chocolat par la pensée.
Voilà comment ça se passe.
Peut-être pas au niveau intestinal, mais bon, on va revenir à des aspects pratiques. On a compris finalement que ce sont donc les sucres cachés, docteur Touvier, qu'il faut tenter surtout de limiter. Alors, quand on n'est pas un pro, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, et nous aussi, Jimmy, on a du mal à décrypter parfois les étiquettes au supermarché sur les produits qu'on achète. Il y a un outil simple qui prend en compte le sucre, c'est le Nutri-Score.
Oui, alors le Nutri-Score, c'est exactement ça l'idée, c'est-à-dire avoir une idée en un coup d'œil, en quelques secondes, de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Pas avoir à décrypter des étiquetages très compliqués. Et donc, un des paramètres phares pris en compte par le Nutri-Score, c'est vraiment le sucre. Donc, des produits qui auront une meilleure note au Nutri-Score, plutôt vers le A ou B, seront moins sucrés.
Donc, dans les gâteaux, si on choisit plutôt des A que des C, admettons, ça veut dire qu'ils sont quand même globalement moins sucrés.
Ils seront moins sucrés, puis moins gras, moins salés aussi, plus de fibres, enfin voilà, beaucoup.
D'accord, mais le sucre y compris dedans.
Est-ce qu'on peut s'aider d'applications désormais pour justement nous aider à savoir quels sont les aliments les plus vertueux? Je crois qu'il y a une application qui s'appelle Open Food Fact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne?
Oui, donc ça, c'est une bonne idée, puisque alors, le Nutri-Score, même s'il est déjà adopté par 7 pays européens,
il reste. Les produits encore,
voilà,
hein,
c'est pas obligatoire. C'est que les industriels qui veulent jouer le jeu qui le font. Donc il y a évidemment tous ceux qui ont des mauvais produits qui
ne jouent
pas le jeu. Au
rayon du jambon, moi je vois qu'il y en a pas, ils le font pas tous encore. Hein.
Donc du coup, en attendant, on a les applications et Open Food Fact, c'est soutenu officiellement par Santé Publique France. Donc c'est une application qui est fiable et l'idée, c'est vraiment qu'elle donne le Nutri-Score. Donc, on voit cette idée de qualité nutritionnelle, on voit du coup les produits qui auront moins de sucre. Et en même temps, on a aussi la liste d'ingrédients. Et donc, on voit tout de suite s'il y a des édulcorants, des additifs pour lesquels il faut limiter.
Il faut payer, c'est gratuit cette application?
C'est une application gratuite, bon, vraiment.
Très pratique. Aline, en ce moment, il y a aussi un truc qui est à la mode, ce sont les régimes zéro sucre. Il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus. J'ai arrêté le sucre, comment j'ai perdu tant de kilos en arrêtant le sucre, etc. etc. Vous faites le point dans le Figaro sur ce sujet, c'est raisonnable ce genre de régime? C'est sans risque?
Alors, ça dépend. Hein. Je crois qu'il ne faut pas. Il ne faut pas jeter des anathèmes sans raison. A priori, si vous voulez, quand vous faites un acte, un régime alimentaire de façon extrêmement brutale et violente et en se disant qu'il faut faire ça tout de suite et que c'est pour la vie, c'est quand même assez néfaste, hein, pour le corps, pour le physique et puis pour le psychique aussi. Mmh. Hein. Vous risquez tout simplement de craquer. Ouais. Tout simplement.
Avec de la frustration, des restrictions.
D'être frustré, ouais. C'est terrible. On craque et puis après, l'estime de soi, on prend un coup. Donc c'est vraiment pas...
Et d'un point de vue médical, est-ce qu'il y a des risques?
Bon, je pense pas. Sauf si vous vous affamez, ça risque de vous poser un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut faire des choses, y compris agir symboliquement pour nous-mêmes et notre santé.
Mieux vaut être accompagné peut-être.
Voilà,
hein,
mieux
c'est
vaut
ça,
être accompagné, mais je ne vois pas en quoi c'est le mal. Par exemple, en ce moment, il y a le fameux Dry January,
qui est très bien,
où on se prive de toute goutte d'alcool. Bon, bah, personne n'en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet aussi de réfléchir, de se repositionner par rapport à une substance qui est une substance agréable. Mmh. Ce n'est pas du poison, l'alcool. Enfin, ça dépend à quelle dose, bien
ça
sûr.
Peut.
Mais ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Donc, le sucre, je pense que c'est un peu la même chose. Donc, pourquoi pas, si on en ressent le besoin et si on le fait sérieusement, c'est-à-dire avec raison, pourquoi pas ne pas stopper un temps.
Alors, bon, je pense que la comparaison peut être un peu maladroite entre l'alcool et le sucre. Je pense que le dry January, c'est un peu une autre ambiance. La mortalité directe et indirecte liée à l'alcool, elle est assez
bien
problématique.
Sûr.
Surtout qu'on a besoin d'une prise de conscience. Il y a l'alcool, alors peut-être que ça viendra pour le sucre, mais c'est peut-être
si
un autre débat.
Si je peux me permettre, Jimmy, si je peux me permettre, effectivement, vous avez raison. On ne peut pas dire que le sucre n'est pas l'alcool. Il ne s'agit pas de dire ça. Mais les gens qui font le Dry January, ça n'est pas des alcoolodépendants. Parce que vous êtes alcoolodépendant, vous ne pouvez pas faire un arrêt comme ça. Non, moi, c'est dangereux. Mais vous pouvez avoir des petites habitudes qu'il est bon de casser. C'est pour ça que je fais la comparaison.
Justement, dans ces questions d'habitude, est-ce que les enfants peuvent les éduquer justement à apprendre à manger des choses sucrées ou au contraire ne pas trop les victimiser, mais être les seuls à ne jamais avoir de bonbons, de gâteaux, ne pas induire peut-être de frustration? Comment est-ce qu'on fait?
Comment faites avec vos enfants? Parce que je sais qu'elle est un peu sévère. Hein. Ouais, donc, ils ont quoi dans le sac au goûter?
Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
de l'eau,
si on fait un truc trop strict avec jamais de bonbons, à faire un anniversaire avec que des fruits, etc., ils vont craquer.
Et les copains ne viendront pas. Hein,
ils ne viendront pas. Ils vont être totalement asociaux et puis ils vont aller en contrebande acheter les bonbons.
C'est ça.
Donc non, ce n'est pas l'idée. Il n'y a pas d'interdiction. C'est vraiment une idée de modération. nutrition. Hein. Donc, de temps en temps, il n'y a pas de problème. Par contre, matin, midi et soir, d'avoir des biscuits, des céréales sucrées, etc., ça, c'est pas une
clairement
bonne idée.
Non. Ouais. Et le fait de peut-être aussi les initier au fait maison, faire des gâteaux ensemble, parce qu'on peut faire de la fabrication du sucré, quelque chose de sympa, de pédagogique. C'est ça aussi, peut-être,
oui,
pour les éduquer au
alors,
sucre.
Alors voilà, ça, c'est une bonne idée. Et puis, dans le fait maison, il n'y aura pas d'additifs ou de substances dont on ne sait pas encore bien les effets santé. Par contre, attention, un gâteau gras, sucré, salé, etc., fait maison, ça reste quand même quelque chose.
Gras, sucré, salé, fait maison.
Nutritionnellement, c'est quand même à manger avec modération.
Aline, le miel, par exemple, est-ce que c'est une alternative au sucre qu'on peut consommer sans modération, pour le coup ?
Alors, on ne peut pas du tout consommer ça sans modération. C'est le miel et du sucre. Hein.
Eh oui.
C'est du fructose, d'ailleurs. Hein. Bon, cela dit, c'est du sucre. Oui, et alors, si on a envie de manger un peu
plus de 100 grammes de miel,
sucre,
on va dire.
Voilà. Voilà.
Et la journée commence souvent par le petit déjeuner et parfois, on a tendance à croire qu'en mangeant quelque chose de très sucré le matin, on va se donner un petit coup de fouet alors que c'est peut-être pas la bonne solution.
Non, c'est pas la bonne solution. Effectivement, de toute façon, le matin, là, ce qu'il faudrait, hein, c'est du pain complet plutôt que les céréales très sucrées ou autres. Pain complet, en plus, il y aura les fibres, donc ça, c'est voilà, très bien. Puis un fruit, et alors fruit entier, plutôt que le jus de fruit, où là, pareil, on va manger du sucre liquide qui va être très vite absorbé. Donc, pain complet, fruits entiers, un laitage, et là on a un petit déj qui tient toute la matinée.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier du sucre. Alors pour ceux qui voudraient encore plus d'informations, je ne peux que vous conseiller le dernier numéro du Figaro Santé qui est en kiosque, une mine d'informations d'avis d'experts au prix de seulement 6,90 €. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Benjamin, aujourd'hui, vous vouliez nous parler du café. Pourtant, ce n'est pas l'heure du petit déjeuner, c'est le goûter.
Le
là. Ouais, qui aurait des vertus pour notre peau,
et
hein,
oui,
c'est ça ?
Effectivement, le café est devenu notre nouvel allié beauté. On en retrouve aujourd'hui dans beaucoup de soins du quotidien, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Et il est notamment très utile pour exfolier la peau, pour se débarrasser de ses cellules mortes.
Exfolier, c'est le gommage, pour ceux qui ne sauraient pas.
Exactement, voilà. Justement. Et pour Diana Behn-Doyle, la fondatrice de la marque WAM, eh bien, il ne faut pas hésiter à récupérer son marc de café pour en faire un gommage.
Le fait d'utiliser le café pour ses bienfaits antioxydants, on va stimuler la circulation du sang. On aime beaucoup le gommage au marc de café. Donc, utiliser typiquement son marc de café au lieu de le mettre directement à l'évier ou à la poubelle, l'utiliser avec une bonne huile de coco, par exemple. On met 2 cuillères de marc de café, 1 cuillère d'huile de coco. Ça fait un super gommage pour la peau.
Et donc, on est belle et écolo, c'est génial, hein ?
Exactement, et le café est aussi excellent pour la ligne, Mélanie. Si vous regardez la composition...
Non, mais sérieux ?
Il est lucide, Benjamin, il progresse de jour en jour, de semaine
Mélanie,
en semaine.
Mélanie, pour la ligne, écoutez bien, non, mais
par
sérieux.
Exemple, si vous regardez la composition de votre crème anti-cellulite, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'elle contienne de la caféine.
Non, mais ma crème anti-cellulite.
Et ce n'est pas un hasard, car c'est l'un des actifs minceurs les plus prisés, comme nous l'explique Isabelle Barra. Elle est chrononutritionniste à Paris.
C'est l'actif de la cosmétique qui est le plus efficace pour diminuer la peau d'orange et le capiton, et même perdre des centimètres. En fait, la caféine va être ciblée directement sur les cellules qui comportent le gras, les adipocytes, et vont agir directement sur ces cellules pour faire fondre les corps gras et actionner ce qu'on appelle la lipolyse.
Et il faut donc bien masser pour favoriser la pénétration de la caféine. Et selon cette spécialiste, eh bien après 3 à 6 mois d'application, eh bien on a déjà de bons résultats.
Bon, est-ce qu'on peut espérer pour Mélanie que ça marche aussi sur ses cheveux, le café ? Mais ça marche pour la peau et pour mincir, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose...
Pour mes cheveux ?
Pour vos cheveux, oui.
Ils vont très bien, mes cheveux.
Effectivement, on retrouve de plus en plus de caféine dans nos soins capillaires. C'est parce qu'elle stimule la pousse du cheveu. Et c'est très facile de fabriquer son soin maison, selon Diana Behn-Doyle.
Un des soins assez faciles à faire et qui va accélérer la pousse des cheveux, c'est un soin avec uniquement donc un actif caféine qu'on mélange avec de l'eau florale. Nous, on préconise l'eau florale de sauge. On mélange les deux, on applique sur les racines 1 à 2 fois par jour, donc un petit pchit dans un flacon pompe spray. Puis voilà, on a son petit soin accélérateur de pousse.
Et le café redonne aussi de la brillance et ravive la couleur naturelle, surtout pour les cheveux foncés.
Très bien, Benjamin. Alors, vous nous avez parlé des cosmétiques à base de café, mais est-ce que le café à boire, à mon petit expresso du matin, est-ce qu'il est bon pour ma peau ?
Oui, puisqu'il est bourré de polyphénol, une molécule antioxydante qui protège les cellules du vieillissement, donc moins de rides. Et dans un café, il y en a en très grande quantité, hein, autant que dans un kiwi ou une pomme. Le problème dans le café à boire, c'est qu'il y a trop de caféine quand on le boit, et ça, c'est pas très bon, comme l'explique Isabelle Barra.
Elle va enclencher une cascade de réactions parce qu'elle libère le cortisol, l'insuline, de l'adrénaline, qui sont des hormones et des neurotransmetteurs qui sont libérés habituellement en période de stress, voire de peur. Et la peau, sous l'effet de la caféine, va être aussi en situation de stress. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance plutôt à rougir par une vasodilatation des vaisseaux, qui à long terme peut même amener une coupe rose pour les peaux sensibles. On va observer également une production du sébum qui peut être augmentée, c'est-à-dire que au long de la journée, vous allez avoir une peau plus brillante, voire même l'apparition de petits boutons pour une peau qui a tendance à faire de l'acné, par exemple. Et à long terme, malheureusement, vous allez avoir des pores qui vont se dilater.
Voilà, vous l'avez compris, l'idéal, c'est donc de boire du décaféiné pour n'avoir que les bienfaits beauté du café, sans les inconvénients.
Jimmy, vous ne buvez pas de café, non? C'est pour ça, c'est
ça se voit. Et vous aussi, Mélanie, ça se voit.
Non, pas beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui arrive dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question de Rachel, 42 ans. Je vous la lis, je me rends compte avec le temps que je prends beaucoup plus de plaisir avec un cunnilingus plutôt qu'un vrai rapport sexuel. Comment est-ce possible, Catherine ? Premièrement, pour reprendre les termes de Rachel, elle compare un cunnilingus à un vrai rapport sexuel. Je crois que vous nous avez déjà expliqué qu'un cunnilingus, ça peut déjà être un rapport sexuel, c'est ça ?
C'est un rapport sexuel, on est bien d'accord qu'on est dans le rapport, relation.
Certains diront que c'est des préliminaires.
Voilà, mais
bon.
C'est un rapport, une relation sexuelle. On ne fait pas un cunnilingus avec son voisin.
Si on tombe amoureux,
mais
si
on blanchit.
Un cunnilingus avec le voisin, oui.
Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas avec la personne qu'on croise dans la rue, c'est un rapport sexuel. On n'est pas en train de compter fleurettes, on n'est pas en train de se parler, on est vraiment en train de faire de la sexualité. Et le cunnilingus est vraiment un organe de la sexualité. Donc le vagin n'est pas le seul organe de la sexualité et le cunnilingus est actif dans la sexualité, y compris pénétrante, que ce soit donc bien sûr et par la pénétration, par voie interne, mais aussi par voie de cunnilingus, sans qu'il y ait une nécessité de pénétration.
Oui, donc ça veut dire d'une façon générale, pour prendre du plaisir, il n'y a pas forcément besoin de pénétration et c'est valable à la fois chez les hommes et chez les femmes.
Bien sûr, il y a des hommes d'ailleurs qui n'ont pas, il y a des moments où ils n'ont absolument pas envie de pénétration, ils veulent avoir de la jouissance au niveau de leur pénis et ils veulent avoir la jouissance de leur éjaculation et qu'importe que ce soit un vagin ou une bouche et après tout, ou une main d'ailleurs, la sexualité, nous avons des humeurs différentes mais ce sont toujours nos sexes qui sont agissants, nos sexes qui sont fébriles, nos sexes qui s'excitent et nos sexes qui aboutissent dans une extase, quel que soit le mode, le chemin emprunté.
Ce qui est étonnant là, c'est qu'elle parle d'un changement, d'une évolution. Elle dit « je me rends compte avec le temps que je prends ». C'est-à-dire pourquoi ça a changé comme ça ? Pourquoi à une époque elle préférait peut-être la pénétration et tout d'un coup, maintenant c'est que le cunnilingus ?
Alors, ça peut dépendre de plusieurs choses. D'abord, je ne sais
peut-être
pas.
Peut-être qu'elle a changé de partenaire, mais elle ne signifie pas ça, donc je ne sais pas.
Alors, ça peut être parce que. Alors, peut-être que c'est un changement de relation et une autre façon d'être abordée. Peut-être un cunnilingus absolument délicieux découvert avec un autre partenaire, pourquoi pas. Ça peut être aussi parce que plus d'inconfort dans la pénétration, une difficulté à la lubrification.
42 ans.
Elle peut être aussi.
Pas, ouais.
Elle peut être
en périménopause.
Elle peut être en périménopause et que ce soit plus compliqué, alors que le cunnilingus la met dans une situation de plus grand confort et de plus grande liberté. Peut-être aussi parce qu'il y a eu un temps justement où elle avait envie d'être pénétrée pour faire des bébés, qu'elle a 42 ans, même si elle n'est pas en périménopause, elle n'a plus le projet de maternité, de bébé. Donc du coup, elle a envie de quelque chose qui ne raconte pas le lieu de la maternité ou l'aboutissement ou le passage pour la maternité, mais plutôt quelque chose qui va évoquer son plaisir à elle, plus dit égoïste, sans nécessairement être dans un partage avec l'autre ou dans une attente de que l'autre vienne combler, remplir ce lieu-là.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir une sexualité épanouie pour une femme simplement avec des cunnilingus où on a besoin de tout ce qui va avec. Et si elle est contente comme ça, écoute,
tant mieux pour elle.
Est-ce qu'on peut...
Oui, non, mais en fait, c'est vraiment une histoire et de chacun et de chaque temps.
Mais elle parle pas du tout du partenaire, de celui qui les délivre. Apparemment, c'est cunnilingus. Oui, je sais pas si ça peut satisfaire un homme aussi comme ça de se contenter d'un.
Bah peut-être aussi. Peut-être.
Pas sûr, mais...
Ouais, je suis pas sûr. Une hypothèse que je suis pas sûr.
Non, mais peut-être qu'il y a aussi la contrepartie qui serait une fellation par ailleurs. Que pour elle préfère le cunnilingus à la pénétration. Peut-être aussi parce que ces pénétrations n'ont jamais abouti aussi à quelque chose de jouissif et que du coup, de guerre lasse, elle a investi ce qui la met dans un état d'extase. On pourrait évidemment se demander aussi si elle peut investir ce vagin dans ce qu'il raconte de contenant ou si elle surinvestit quelque chose qui, dans sa fantasmatique, est quelque chose de plus équitable dans le homme-femme, vous voyez, parce que c'est extérieur, plus maîtrisable, plus facile à circonscrire.
Est-ce que 42 ans, c'est l'âge un peu de la maturité sexuelle? Vous avez dit, pour une femme, qu'après 40 ans, justement, on redécouvre un peu la sexualité.
Comme il y a plus ce souci d'avoir un enfant.
Exactement.
Moins, en tout cas.
Donc c'est un moment où on peut être plus libéré. Peut-être c'est ça, elle est peut-être plus libre dans son corps.
Oui, parce qu'il y a des jeunes femmes qui n'aiment pas le cunnilinguisme, non pas parce que ce n'est pas agréable, mais parce que c'est un moment où on est vu s'offrant, s'ouvrant, se laissant faire, jouissant, sans être protégé par le fait que l'autre est tout en affaire et donc ne vous regarde pas. Et souvent, il faut plus de maturité, plus de tranquillité pour pouvoir être ouverte comme une fleur pendant que monsieur s'affaire et ronronner délicieusement en se moquant éperdument de ce qu'il pourrait attendre en retour. Il faut un peu de maturité pour oser ça aussi. Après, ça, à condition de ne pas trop virer à l'égoïsme.
Ça vous fait rire, Jimmy?
Non, pas du tout.
C'était la fleur ouverte qui vous a fait sourire.
C'était joli, moi, je trouve.
C'est poétique.
Pour terminer la semaine, pour terminer l'émission, une fleur ouverte. Merci Catherine beaucoup pour cette image, pour cette belle image de fin. Et bien sûr, pour vos précieux conseils, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Au voleur.
Oui, aujourd'hui, l'émission est consacrée aux as du cambriolage. Avec Alexandre Marius Jacob, qui aurait inspiré Arsène Lupin, vous savez, en ce moment, il y a la série Lupin. Vincenzo Perugia,
qui vous a dérobé un tableau de valeur.
Non, il est allé au Louvre, il a volé le tableau qui avait la bonne taille.
Oui.
Et la Joconde.
C'était le bon format pour chez lui.
Et vous avez qui comme as du cambriolage?
Alors,
Mathieu,
un as du cambriolage qui peut-être à l'heure où on parle, est en train de cambrioler chez vous, Stéphane, puisque sa spécialité, on le surnomme le chat, c'est les stars, les célébrités, dont il a évidemment l'emploi du temps, puisqu'elles sont dans la presse.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.